Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Instant Japon, votre rendez-vous mensuel avec Dominique Buisson, fin connaisseur de ce pays. Bonjour Dominique, on peut peut-être même dire amoureux.
Oui, d'ailleurs, si un éditeur écoute, j'écrirais bien un dictionnaire amoureux du Japon.
Ah voilà. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouveau chapitre de Nouveaux Instants Japon, un cycle consacré aux contes et légendes japonais. Alors Dominique, je suppose qu'il y a plusieurs types de contes et de légendes, puisque c'est la même chose finalement partout dans le monde. On trouve plusieurs genres. Est-ce qu'il y a quand même une particularité des contes japonais ?
Oui, forcément, même si la nécessité de conter, de raconter, d'inventer des légendes est un besoin profond de l'homme, je pense, pour expliquer ne serait-ce que comment marche le monde. Au Japon, évidemment, elle est très influencée par les deux religions qui constituent la pensée japonaise, c'est-à-dire le shintoïsme et le bouddhisme. De plus, il faut ajouter un goût, mais vraiment un goût immodéré, des Japonais pour le surnaturel. Alors on les retrouve dans les spectres qui animent le théâtre no, les yokai, vous savez, ces êtres un peu bizarres des traditions populaires, les animaux transformistes qui adorent duper les humains, ou les fantômes.
Ça on retrouve, je fais une petite parenthèse, mais on retrouve ça beaucoup au cinéma.
Bien sûr.
Le cinéma japonais, et puis même peut-être le cinéma d'animation, je pense à des gens comme Hayao Miyazaki, c'est quand même les contes et légendes à la base.
C'est à la base de son travail, Alors, il faut tout de suite noter une chose, c'est que toutes ces créations ne sont pas exclusivement japonaises et qu'elles viennent du continent pour nombre d'entre elles. On peut remonter jusqu'à l'Inde, qui est assez lointaine, mais après tout, le bouddhisme est parti de là-bas. L'Asie du Sud-Est, la Chine, la Corée, et tout ça évidemment dans les pas du bouddhisme, pour arriver au Japon. Mais comme au Japon spécifiquement, il y a une mythologie qui est très riche, et il y a donc nécessairement une production très importante d'histoires extraordinaires, dont la création du monde. Le bouddhisme, lui, est introduit au VIe siècle. Il va apporter une valeur édifiante à un certain nombre d'histoires issues du continent, tandis que le taoïsme et le confucianisme vont les teinter de piété filiale, ce qui est une bonne idée d'ailleurs. Allons plus loin, dans les fiefs, les villages, même les plus reculés, et les campagnes, on va trouver aussi une multitude de faits locaux qui vont très très vite exalter la bravoure, l'astuce, etc., des personnages en question. Et donc évidemment, ces choses-là vont se véhiculer oralement pour raconter ou veiller des histoires aux petits-enfants. Mais aussi, on va les retrouver très souvent, d'ailleurs, fabriqués en objets populaires, typiques de ces régions. C'est encore le cas aujourd'hui. Et puis, il y a des contes et légendes, explications du monde. En général, c'est celle que je préfère. C'est par exemple pourquoi tel ou tel animal est fait ainsi. Un exemple que je raconterai tout à l'heure, pourquoi le singe a les fesses rouges, par exemple. Enfin, il y a des grands classiques de contes pour enfants, comme la princesse Kaguya-hime, princesse de la lune, Momotaro, le fils de la pêche, Kintaro, l'enfant d'or, ou Isumboshi, qui est l'équivalent du Tom Pouce américain.
Et des contes, c'est pareil, ça me fait penser à des films d'animation qui ont repris aussi ces sujets-là. Donc c'est des contes qui sont encore très présents dans la société japonaise actuelle.
Ah, complètement. Complètement. On les retrouve d'ailleurs d'une manière iconique, récupérés sans arrêt par la publicité, il y a toujours des clins d'œil qui... Oui, ça c'est une chose qui est très 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 vivace encore au Japon.
Alors, on va peut-être se faire une idée de ces différents genres avec vous et on vous en remercie. Et on va commencer, j'allais dire par le commencement, peut-être les contes à caractère religieux. Vous vouliez partager avec nous un conte Shinto. On peut peut-être rappeler très brièvement ce qu'on entend par un conte Shinto. Qu'est-ce que c'est que le shintoïsme ?
Alors, le shintoïsme, qui veut dire la voie des dieux, est la religion native du Japon. C'est celle qui explique la création du monde. Elle a été écrite, entre guillemets, cette tradition, dans les pas du bouddhisme, lorsqu'on a apporté l'écriture. On a rassemblé toutes les légendes, on va dire, les petits racontars de campagne et tout ça. On a mélangé, on a reconstitué, on a politisé d'ailleurs, parce que ça a servi à justifier la grandeur du clan impérial, enfin voilà. Donc en fait, c'est tout ce qui se passe dans les hautes plaines du ciel, comme dans la plaine luxuriante des roseaux, qui est donc le Japon. Et donc là, dans ces histoires-là, il y a une multitude de divinités, grandes et petites, qui habitent. La grande, grande majorité sont des divinités invisibles, ce qui est assez intéressant d'ailleurs. Mais là, celle dont j'ai envie de vous parler, la divinité n'est pas totalement invisible, on va le voir. Ça met en scène la divinité du mont Miwa. Le mont Miwa, c'est une montagne sacrée, très importante. C'est un très très vieux lieu du shintoïsme, pratiquement du shintoïsme d'origine. Et ça se trouve dans la ville de Sakurai, qui est jumelée avec Chartres.
Tout à fait.
C'est pour ça que je connais tous les dieux locaux. C'était au temps où les hommes, les arbres et les animaux parlaient le même langage. Même les rochers de la montagne, même les galets de la rivière les comprenaient. C'est aussi le temps où les demoiselles, rencontrées dans les légendes, étaient des princesses, ou du moins des jeunes femmes de haut lignage. Et elles étaient forcément merveilleusement belles. C'était un temps où les dieux avaient plusieurs noms et pouvaient prendre plusieurs formes. C'était le temps aussi où ils aimaient bien séduire les mortels. C'était au pied du mont Miwa, dans un lieu que l'on nommera plus tard le puits du cerisier. Mais cela est une autre histoire. Or donc, il advint que la princesse Ikutamayori se réveilla un matin très confuse, le rouge aux joues et le sourire aux lèvres. Pressentant une chose extraordinaire, la mère s'inquiéta du comportement de sa fille. « Ma fille, pourquoi tant de joie retenue ?»« Mère, j'ai reçu nuitamment la visite d'un beau jeune homme. Il avait tout d'un prince, charmant et aimant. Mais au petit matin, au moment où la rosée se transforme en perles cristallines sur les fleurs encore endormies, il avait disparu. »« Ma fille, cet esprit poétique de si bon matin est bien étrange. » Le jeune homme s'est-il engagé plus que de raison ? Oui, ma mère, ce fut étrange, mais bien agréable. Mais alors, ma fille, pourquoi cette inquiétude dans ton regard ? Ma mère, la porte de ma chambre était fermée à double tour, et pourtant, mon visiteur a disparu sans laisser de traces. Je ne sais que penser de ce mystère, d'autant que depuis, je sens naître une vie dans mon ventre. « Ma fille, c'est probablement l'œuvre d'un dieu. Penses-tu qu'il puisse revenir ?»« Ma mère, je l'espère. Mais un dieu quand même. Comment se pourrait-il ?»« Ma fille, seules les grandes divinités invisibles connaissent le destin de chacun. Attendons de savoir ce qu'il nous réserve. » »«
On ne va pas attendre trop longtemps.
» Non, pas trop. Simplement la nuit suivante.
Ah, ça va.
La nuit suivante, la jeune fille endormie fut réveillée par un souffle frais sur son cou. Elle sut d'emblée que le mystérieux jeune homme était de retour. Mais elle n'eut ni l'audace de lui demander son nom, ni l'audace de lui demander d'où il venait, ni l'audace de lui demander comment et pourquoi il avait disparu. Elle était comblée de sensations nouvelles et son inquiétude avait disparu. Le lendemain, elle constata, une nouvelle fois, que l'amant était venu et reparti de la même manière, la porte toujours close à double tour. La mère, inconsciemment fière d'être associée à un fait divin, prit les choses en main. « Ma fille, répand de la terre rouge auprès de ta couche, prends cette aiguille et cet écheveau de chanvre. Quand ton prince reviendra, passe ce fil dans le chat de l'aiguille et accroche celle-ci à son vêtement. » Nous verrons bien jusqu'où le fil et les traces ainsi révélées nous conduiront. Mère, je vous obéirai. La nuit venue, malgré son émoi, La princesse fixa l'aiguille comme sa mère le lui avait recommandé. Le lendemain, le dieu avait encore disparu. Les traces sur le sol étaient confuses, mêlant pieds humains et formes ondulées. Le fil de chanvre passait par le trou de la serrure, laissant trois boucles à l'intérieur de la chambre. À n'en pas en douter, comme le supposait la mère, c'était une manifestation divine. Les deux femmes suivirent le fil qui les conduisit à la montagne proche.
On est en plein suspense, Dominique. Alors, qu'est-ce qu'elles vont trouver dans cette montagne ?
Et le chemin s'arrêtait là, au pied de la montagne, au Cryptomeria. Mais la profondeur du mystère demeurait. Un serpent blanc se faufila dans le feuillage. Mère et fille comprirent alors, avec un brin d'effroi et beaucoup de fierté, que le prince charmant était l'un des esprits de Okuninushi, le grand dieu pacificateur du Japon et créateur de l'agriculture, et que cet esprit, nommé ici Omononushi, avait la forme d'un serpent. Comme il était resté que trois boucles de fil à la serrure, on appela donc la montagne du dieu Miwa, ce qui signifie très exactement trois boucles. On éleva alors un sanctuaire pour honorer la montagne au Cryptomeria elle-même comme corps de la divinité. L'enfant de cette union miraculeuse devint l'ancêtre des prêtres servant ce sanctuaire, et lorsque la princesse mourut, on l'enterra dans une tombe qui porte aujourd'hui le nom de la tombe de la dame à l'écheveau.
Alors là, Dominique, c'est presque la fin. Disons qu'une fin peut en cacher une autre.
Et oui, c'est pas fini cette histoire-là. Quelques temps mythologiques plus tard. Alors, je vous dirai pas combien de temps ça prend dans le nôtre.
On imagine que c'est assez long.
Le dieu Omononushi, donc, se fit de nouveau connaître. Alors qu'une terrible épidémie ravageait le pays, il apparut dans un rêve du 10e empereur terrestre, Sujin Tenno. Et ce dieu, mécontent d'être négligé dans son sanctuaire, promettait maladie, ruine, famine si on ne se hâtait pas de l'honorer davantage. Il réclamait même que l'on nommât un de ses descendants pour le servir. L'empereur, sollicité de toutes parts, fit rechercher ce descendant nommé Otata Neko. On envoya des cavaliers rapides dans les quatre directions et on le trouva finalement dans le village de Mino, en Kochi. L'empereur, l'ayant questionné sur sa généalogie, l'on sut alors qu'il était l'arrière-petit-fils du dieu Omononushi et de la mortelle Ikutama Yori. L'empereur l'éleva aussitôt au rang de grand prêtre du sanctuaire, mais il fit plus encore. Il s'engagea à honorer toutes les divinités du ciel et de la terre, leur consacrant des sanctuaires et des tables d'offrandes. Puis il dédicaça le bouclier et la hallebarde rouge à la divinité de Sumisaka en Uda, et le bouclier et la hallebarde noire à la divinité d'Osaka. De plus, il offrit des objets rituels à toutes les autres divinités, sans oublier celle du sommet des pentes et celle des hauts fonds des rivières. Et le désastre annoncé n'eut pas lieu.
Que d'efforts.
Oui. Il paraît d'ailleurs qu'une des personnes travaillant à la mairie de Sakurai, donc, qui s'appelle la ville du puits du cerisier, est une descendante de ce fameux Otata Neko.
Ah oui.
Eh oui, mais il paraît aussi qu'elle a beaucoup moins de pouvoir que le maire actuel.
Alors Dominique, je fais une petite parenthèse sur ce conte Shinto. Ces dieux Shinto, quel intérêt ils ont à interagir avec les humains ?
Alors, les dieux Shinto ont créé le Japon, ont créé le monde. Et donc, en remerciement, ils veulent être honorés. C'est d'ailleurs le seul dogme réellement du shintoïsme. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'intention, on va dire, intellectuelle ou de croyance qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, gérer le monde. Dans le shintoïsme, on est dans un processus. Simplement, les divinités sont créées pour quelque chose, c'est-à-dire pour faire pousser la nature, pour faire pousser les plantes, renouveler. Et donc, le rôle est quelque part quelque chose de très très simple. Et les hommes, de leur côté, doivent simplement les remercier pour cette chose-là, parce que, évidemment, faire croître le riz et faire croître les enfants, c'est la même chose. Mmh. Les deux étant intrinsèquement, de manière presque consanguine, sont liés au Japon, sont considérés comme ça.
On va rester dans le domaine des contes à caractère religieux. On va changer cependant de religion pour s'intéresser un petit peu au bouddhisme, donc un conte bouddhique. Est-ce que là encore, on peut rappeler évidemment brièvement ce qu'est le bouddhisme au Japon ?
Alors le bouddhisme au Japon est arrivé au 6e siècle. C'est une ambassade coréenne qui était en relation avec... c'était pas encore vraiment un empereur, c'était un grand roi, on va dire, qui habitait Sakurai, justement, toujours le même endroit.
Décidément.
À deux pas, d'ailleurs, de la montagne sacrée dont on vient de parler. Et là, il y avait un petit port, le port de Kanaya, où l'eau était désespérément plate et les navires ne pouvaient pas aller plus loin, d'ailleurs. C'est pour ça que le bouddhisme s'est arrêté là, tout simplement. Et donc, l'ambassade coréenne proposait à l'empereur d'accueillir quelque chose qui venait de sortir. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est génial, c'est absolument génial, il faut absolument l'essayer. Et évidemment... avec la recommandation, il y avait une statue bouddhique qu'on a installée dans un temple, qu'on a mis à l'essai, d'une certaine façon. Ça n'a pas été sans mal, d'ailleurs, parce qu'il y a eu quelques petites catastrophes, des clans de cour qui s'opposaient, parce que, après tout, l'empereur était le descendant direct de la déesse du soleil, et accueillir un confrère, ça posait problème. Il y a eu quelques petites guerres, et puis finalement, le bouddhisme, qui apportait avec lui l'écriture, l'architecture monumentale, la statuaire, l'art de gouverner à la chinoise. Enfin, il y avait tellement, tellement de choses intéressantes qu'on a décidé de le rendre religion officielle. Alors, ça s'est passé en plusieurs temps, plusieurs sectes, à différents moments de l'histoire du Japon. On est allé chercher, donc, des...
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un bouddhisme japonais aujourd'hui ?
Alors, il y a un bouddhisme japonais, on peut dire ça... concernant surtout le zen, c'est-à-dire que la dernière phase d'introduction des pensées bouddhiques, on va dire, issues du continent. Parce que le zen, qui est directement issu du chan chinois, a pris au Japon une valeur très particulière auprès des guerriers, en particulier. Et donc a développé quelque part des concepts esthétiques, de frugalité, etc., qui sont peut-être, là, pour le coup, beaucoup plus japonais. Alors que les autres sectes, qui sont des sectes soit ésotériques, soit un petit peu de même nature, liées à base de secrets, sont quand même restées beaucoup dans des traditions continentales.
Alors, donc, un conte bouddhique, vous avez choisi pour nous les six aveugles et l'éléphant, et je vous disais avant de commencer cette émission que je connaissais ce conte, mais raconté par Rumi, donc le sage soufi. Donc finalement, c'est un conte assez universel qu'on rencontre dans beaucoup de grandes traditions. Ça s'explique, ça.
Mais tous ces contes sont universels, de toute façon. Tous les contes sont universels, et je dirais même plus, même le shintoïsme, on retrouve des traces... Dans le shintoïsme, ça pourrait être l'histoire de Proserpine ou Déméter, selon le pays dans lequel ça s'adresse. Il y a beaucoup de choses. Ce sont des coïncidences. Je pense qu'à un même degré de pensée, l'homme développe des mêmes questionnements et donc crée des mêmes histoires. Alors, il y a aussi la géographie qui fait que les histoires circulent. La route de la soie a beaucoup, beaucoup été utilisée pour transporter non seulement les marchandises, mais aussi les pensées, donc les contes. Donc celle-là, c'est telle qu'on peut la trouver racontée au Japon. Vous verrez qu'elle n'a pas de caractère spécifiquement japonais, mais c'était par souci de parité religieuse que je vous la raconte. Un jour, Bouddha rassembla ses disciples et leur raconta une histoire. Il y a fort longtemps, un roi dont les sujets étaient dans l'ignorance, n'ayant foi que dans la clarté du ver luisant et mettant en doute la clarté du soleil et de la lune, décida de leur montrer un exemple de leur aveuglement. Il fit convoquer au palais un groupe d'aveugles de naissance et les fit emmener devant un éléphant. Le premier s'approcha de l'éléphant et, perdant pied, alla buter contre son flanc large et robuste. Il s'exclama aussitôt « Mon Dieu, mais l'éléphant ressemble beaucoup à un mur !» Le second, palpant une défense, s'écria « Oh, qu'est-ce que cet objet si rond, si lisse et si pointu ? Il ne fait aucun doute que cet éléphant extraordinaire ressemble beaucoup à une lance !» Le troisième s'avança vers l'éléphant et, saisissant par inadvertance la trompe qui se tortillait, s'écria sans hésitation « Je vois que l'éléphant ressemble beaucoup un serpent. » Le quatrième, de sa main fébrile, toucha une jambe. « De toute évidence, dit-il, cet animal fabuleux ressemble à un arbre. » Le cinquième toucha par hasard l'oreille et dit « Même le plus aveugle des hommes peut dire à quoi ressemble le plus l'éléphant. C'est un éventail. » Le sixième commença tout juste à tâter l'animal lorsque la queue qui se balançait lui tomba dans la main. « Je vois, dit-il, que l'éléphant ressemble beaucoup à un balai. » De retour devant le roi, et mis dans l'obligation de préciser ce qu'ils avaient compris, les aveugles se disputèrent avec force, chacun pensant pouvoir décrire précisément l'éléphant. Le roi rit alors aux éclats et dit à sa cour, « Vous tous, vous êtes comme ces aveugles. Vous pensez détenir la vérité et vous passez votre temps à vous quereller. La morale de cette histoire, ne jugez jamais une chose d'après une partie seulement, mais toujours après avoir vu le tout. » Bouddha dit alors à ses disciples, « Ainsi sont les brahmanes que vous avez rencontrés à Jetavana. Sans sagesse et à cause de leur cécité, ils en arrivent à se disputer. Et à cause de leur dispute, ils restent dans l'obscurité et ne font aucun progrès. »
Voilà, effectivement, là, on a des enseignements à tirer de ce conte-là. On va laisser les contes religieux un petit peu de côté pour s'intéresser aux contes populaires. Alors là, on aborde différents aspects, j'imagine, de la vie quotidienne du Japon.
Oui, c'est plus lié à soit de l'humour, soit des petites historiettes qui peuvent être édifiantes d'ailleurs.
Parce un petit peu de sagesse populaire.
Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est la sagesse populaire, mais qui tire toujours ses racines de sagesse plus large, on va dire. Donc, en particulier, de sagesse taoïste ou confucéenne qui sont arrivées dans les pas du bouddhisme, dans l'ombre du bouddhisme, on va dire. Donc, et puis très très vite, ces histoires, à force de se répéter, elles sont finies par devenir complètement japonaises.
Alors là, vous nous en proposez une qui est très courte, qui s'appelle « Le moineau interprète ».
Ah oui, je l'adore, celle-là. À l'époque où tout ce qui venait du continent était considéré comme le nec plus ultra, un vassal, voulant offrir un cadeau extraordinaire à son seigneur, imagina de faire venir de Chine plusieurs moineaux. Les oiseaux arrivèrent à bon port, mais comme l'un d'entre eux était mort pendant le voyage, le vassal le remplaça par un moineau japonais. Le seigneur, ravi de ce présent inusité, et après avoir bien admiré les oiseaux, s'étonna d'y trouver un moineau japonais. « C'est vrai, » dit le vassal sans se démonter, « mais comme les oiseaux sont tous des étrangers, j'ai pensé bien faire en leur donnant un interprète. »
C'est ravissant. Alors on va changer de catégorie une fois de plus, avec ce que vous appelez les contes explications du monde. Qu'est-ce qu'on va y trouver ?
Alors on va y trouver essentiellement... Des pourquoi. Pourquoi le singe a les
fesses
rouges,
c'est vos petits préférés, ceux-là.
C'est-à-dire que c'est celle où on voit les enfants qui écoutent l'histoire. À un moment, quand on révèle la chose, ils ont des grands yeux comme ça. Ils disent « Mais bon sang, mais c'est bien sûr !» pour ça qu'elles sont en général géniales. Elles sont pas très longues en général non plus. Elles sont assez amusantes. Comme celle-ci, là, c'est les trois amis et le mortier. Donc, il y avait autrefois, donc, dans la montagne, un trio d'amis composé d'un singe, d'un lièvre et d'une grenouille. Vers la fin de l'année, quand les Japonais pilent le riz gluant pour faire des gâteaux de nouvel an que l'on nomme mochi, les mochi, le trio voulut sa part du festin. Il descendit de la montagne jusqu'au village. Il trouva un mortier plein de mochi fumant que le singe prit sur son dos pour l'emmener au sommet de la montagne. Ayant fait tant d'efforts, le singe voulut le riz pour lui tout seul. Décision qui ne fut pas évidemment partagée par tous, on s'en doute. Le singe proposa alors de lancer le mortier vers le bas de la vallée, et que celui qui arriverait le premier en bas aurait le mochi uniquement pour lui. Si le singe et le lièvre pensaient avoir des chances, la grenouille se voyait déjà gruger. Aussitôt dit, aussitôt le mortier dévalait la montagne, suivi par le singe, qui, trop fougueux, ne tarda pas à trébucher et à se râper le postérieur. C'est pourquoi le singe a les fesses rouges. Le lièvre fut ainsi le premier à atteindre le pied de la montagne, avant le mortier, qui lui-même prenait de plus en plus de vitesse. Le lièvre tendit ses pattes avant pour l'attraper, mais l'objet était beaucoup trop lourd. C'est pourquoi les pattes avant du lièvre sont si courtes. La grenouille arriva enfin au bas de la montagne et put tranquillement savourer tout le mochi. C'est pourquoi les grenouilles ont le ventre si rond.
Alors, on ne résiste pas à l'envie de vous en demander une autre de ces histoires. Un autre pourquoi ? Pourquoi la corneille de la mythologie a trois pattes ?
Je crois vous l'avoir déjà raconté dans une précédente émission.
Je
ne résiste pas à la redire. Parce que c'était encore une fois au temps où les animaux parlaient. Un jour, alors qu'il était empêtré dans la boue d'une rizière, le chien, qui alors n'avait que trois pattes, se plaignit amèrement en levant les yeux au ciel. « Mais Seigneur, disait-il, pourquoi la corneille a-t-elle quatre pattes alors qu'elle a déjà des ailes, et moi, pauvre chien, je n'ai que trois pattes ?» Les dieux devaient être dans un beau jour car ils décidèrent d'enlever une patte à la corneille pour la donner au chien. Comment sait-on quelles pattes les dieux ont offert aux malheureux ? Eh bien, c'est celle qu'il lève lorsqu'il urine pour ne pas souiller un don si divin.
Ça va de soi. Dominique, on arrive au terme de cette émission. Merci infiniment. On aura le plaisir de vous retrouver le mois prochain avec donc d'autres contes et légendes japonais. Merci à vous.